Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence des journées de l'économie qui a pour thème l'innovation d'aujourd'hui et les marchés de demain. Alors c'est un thème évidemment passionnant puisqu'il interroge à la fois la capacité de créativité d'une société et sa capacité à anticiper des besoins, des demandes, une demande future, actuelle et future, et surtout sa capacité de vendre, puisqu'on parle de marché. Donc il ne s'agit pas simplement d'inventer et d'innover, mais il faut être en mesure de passer sur le marché ces inventions et ces innovations. Alors j'ai autour de moi des chefs d'entreprise qui vont donc piloter ce débat. Nous aurons peut-être également, ce n'est pas une surprise ou un joker, mais une personne qui devait nous accompagner, qui était Gilles Leblanc, professeur d'économie à Paris, et qui apparemment est retardé, qui a des retards dans les transports. Il nous avait confirmé, peut-être nous rejoindra-t-il en cours de route. Je vous présente rapidement les invités. Bruno Bonnel, qui est à côté de moi, vous êtes créateur d'Infogrames et aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui commercialise et fabrique des robots et qui s'appelle Robopolis. À votre gauche, Frédéric Jazel. Frédéric, vous êtes créateur de l'entreprise Ambedia, qui se positionne sur les nouveaux usages de terminaux téléphoniques. Et à la gauche de Frédéric, Guillaume Quenet, créateur de la société Antagène, qui développe et commercialise des tests génétiques sur chiens et sur chats. Et peut-être, je dis Gilles Leblanc, qui est un professeur d'économie, qui nous rejoindra. Donc moi-même, je suis Christophe Dudon, et je travaille à la Chambre de commerce, et je serai aujourd'hui donc le modérateur de ce débat. Alors, je rappelle le principe des journées de l'économie. Les journées d'économie, c'est le débat public. Voilà. Donc, c'est à vous de prendre la parole et d'animer ce débat. Et donc, vous avez à faire en sorte que j'intervienne et je parle le moins possible. Donc, voilà, vous êtes en interaction avec des chefs d'entreprise. Donc, vous l'avez compris, on ne va pas faire un débat ex cathedra sur l'innovation ou un débat de prospective futuriste sur les nouveaux marchés et les nouveaux besoins en 2050, mais on regardera de manière pratico-pratique, on interrogera et vous interrogerez les chefs d'entreprise, ceux qui créent la valeur au quotidien, ceux qui innovent, ceux qui inventent, ceux qui commercialisent. Voilà, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait le débat entre la salle et les chefs d'entreprise avec mon rôle de modérateur. Alors, pour lancer le débat, je voudrais que chacun puisse répondre brièvement à trois questions. La première question qui traite le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi vos marchés ? Sur quoi vous intervenez aujourd'hui ? Quelle est votre vision de ces fameux marchés de demain ? La deuxième question, c'est comment vous en êtes-vous arrivé là aujourd'hui ? Comment vous positionnez-vous ? Comment vous êtes devenu chef d'entreprise à vouloir tenter, je dirais, l'aventure et l'innovation et la captation de ces marchés ? Et puis, troisièmement, comment vous allez vous y prendre pour capter ces marchés de demain. Alors, voilà, je voudrais que chacun reprenne ces trois questions de manière assez simple, de manière à lancer le débat, ce qui vous permettra de prendre quelques notes et surtout de préparer les questions, puisqu'après, c'est vous qui allez poser les questions aux invités. Bruno ?
C'est moi qui commence. Bonjour. Le marché de Robopolis, c'est un marché qui est en pleine émergence, c'est un marché en pleine explosion qui s'appelle le marché de la robotique de service. Alors qu'est-ce que c'est que la robotique de service ? C'est cette nouvelle révolution qui fait que l'intelligence va être apportée aux machines. C'est-à-dire qu'après avoir fait des machines qui augmentaient la force de l'homme, ou des outils qui augmentaient la dextérité de l'homme, on arrive maintenant, grâce à la convergence de l'informatique, de l'électronique, de la mécatronique, on arrive à faire des machines qui ont des capacités, non pas de penser, mais de déduire, et donc de prendre des initiatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ça veut dire que notre monde, dans les prochaines années, va être bouleversé, parce que nous aurons des voitures qui se garent toutes seules, Nous aurons des appareils ménagers qui sont capables d'une certaine autonomie. Ça a déjà commencé, notamment avec les aspirateurs qui fonctionnent tout seuls. Nous aurons des possibilités de surveiller les personnes âgées ou en difficulté à la maison avec des systèmes experts qui sont capables de prendre des décisions et pas simplement d'alerter. Donc notre monde va se peupler de ce qu'on appelle communément des robots. Et c'est ça le marché de Robopolis, c'est de développer une activité de distribution et de création de cette robotique de service. On l'appelle de service parce qu'elle est opposée à la robotique de type industriel, celle des robots qui dans les usines soudent, peignent ou construisent des machines aussi, ou la robotique dite militaire qui elle est vraiment concentrée sur des applications stratégiques ou militaires. Donc la robotique de service, c'est celle de notre vie quotidienne. Alors elle est déjà là, elle représente un marché très important déjà dans le monde, mais elle est attendue à être un des marchés qui est à trois chiffres, comme on dit, c'est-à-dire qui va se multiplier par deux ou par trois par an sur les prochaines années. Alors, juste pour vous remettre ça, pour vous recadrer ça en termes de vitesse, qu'on pourrait dire, oh là là, il est dans la science-fiction, les robots, j'ai vu des films, j'ai vu Terminator, hein, c'est dans très longtemps. Sachant que ce n'était pas dans très longtemps un Terminator, mais c'était quand même un film. Je voulais juste vous rappeler deux chiffres, surtout pour les plus jeunes. 1995, je suis sûr qu'il y en a certains qui disent « Ah, mais j'étais pas bien vieux », c'est le premier fournisseur Internet en France. C'est la première fois, ça s'appelait Infony, ça a été créé à Lyon. C'est la première fois qu'on donnait l'accès à Internet au grand public. 1995, c'était il y a 15 ans. 1992, trois ans avant, c'est l'apparition du téléphone portable. Donc j'aimerais juste que la plupart d'entre vous imaginent ce que ça voulait dire d'une vie sans téléphone portable. Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui s'en rappellent déjà plus, et les autres, ils ne savent même pas ce que c'est. Et plus intéressant, le Wi-Fi, que certains certainement utilisent même aujourd'hui, sur leur smartphone ou autre, le Wi-Fi, c'est 2002, c'était il y a 8 ans. Donc quand on parle d'une révolution dans le domaine de la high-tech, et notamment quand on parle de vision compliquée comme la robotique, on se dit, oulala, mais c'est dans vachement longtemps. En fait, il faut que vous attendiez que cette vision, elle soit dans les 5 ou dans les 10 prochaines années. Alors, pour répondre à la deuxième question, j'en suis arrivé là par une activité que je faisais avant, qui était des jeux vidéo. Je dirigeais une société qui faisait des jeux vidéo sur tout type de console, qui s'appelait Infogrames et Atari. Et qui, pareil, ce marché du jeu vidéo n'existait pas en 1983, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et il a bouleversé quand même les habitudes de consommation de pas mal de gens. Et du jeu vidéo, on est passé effectivement à la simulation. Maintenant que le hardware est compétent, maintenant qu'on voit qu'il y a des technologies qui sont accessibles en termes de prix, c'est un donné important. Quand on s'intéresse au grand public, c'est le prix. J'ai basculé du logiciel vers le matériel, mais toujours le matériel interactif avec l'homme, c'est-à-dire le robot. Et ces conquêtes de marché, elles se font d'abord et avant tout par écoute des marchés et maturité. Alors qu'est-ce que ça veut dire écoute et maturité? Ça veut dire que les vitesses de pénétration des différents objets dans notre vie quotidienne se font suivant des schémas qui sont assez traditionnels. Bon, première donnée, on a un monde qui devient de plus en plus urbain. Vous savez qu'on est passé cette année, pour la première fois au niveau mondial, dans une population qui vit plus dans les villes qu'à la campagne. C'est la première fois dans l'histoire du monde. Et ces populations urbaines, leurs modèles, ils sont plutôt du côté de l'Asie. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup dans les marchés de demain, surtout les marchés qu'on appelle urbains. On regarde beaucoup du côté de l'Asie. Donc on regarde des villes comme Tokyo, des villes comme Séoul, des villes comme Kuala Lumpur. C'est-à-dire qu'on regarde ces marchés, on dit mais comment est-ce que les gens vivent dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils consomment? Bon, par exemple, je peux vous dire qu'on est très très loin du compte en téléphone portable. Un jeune japonais ado, il a entre 3 et 4 téléphones portables avec des applications très spécifiques. Il y en a pour texter, il y en a pour appeler leur famille, il y en a pour s'amuser. Donc, et ils se baladent, c'est courant de voir dans les villes des gamins avec 2-3 téléphones pendus autour du cou. C'est standard. Bon, ça veut dire quand même que cette information mobile, par exemple, c'est un marché de demain. Bon, ben de la manière, les robots sont apparus d'abord en Corée, sont apparus d'abord au Japon. Ils ont ensuite été faire un petit tour du côté de l'Amérique et ils arrivent en Europe. et l'Europe est un peu en retard. Donc on va prendre une démarche très pragmatique. On va d'abord aller où les marchés sont les plus solides, les marchés asiatiques, les marchés américains, et puis on progressera, j'espère, et on rattrapera le retard de l'Europe dans le domaine dans les années qui viennent. Voilà.
Merci. Alors, je vais jouer un peu le rôle de modérateur. Je vais juste intervenir un petit peu là en disant il y a des choses déjà qui sont importantes. Un, ça va vite. Je crois que c'est les choses qui sont dites. Deuxièmement, on reviendra sur ce sujet qui, je pense, est intéressant. C'est parfois on crée sur des marchés qui n'existent pas. Donc, un peu la question qu'on reposera aux chefs d'entreprise, c'est comment on fait ? Comment finalement on arrive à créer et anticiper sur des marchés qui n'existent pas ? Et puis, troisièmement, une donnée aussi un peu clé, c'est l'urbanisation. Fait partie, effectivement, un des clés de l'explosion des demandes qui vont constituer effectivement ces marchés en pleine croissance, puisque l'urbanisation va progresser. C'est une tendance forte pour aller capter des nouveaux marchés. Alors Frédéric Chazel, vous êtes créateur de la société Ambedia et vous positionnez sur des nouveaux usages de terminaux téléphoniques. Expliquez-nous ça.
Oui, bonjour à tous. Alors j'en profite puisque Bruno Bonnel m'a permis de faire une transition sur l'information mobile. C'est vrai que le terminal mobile, pour vraiment synthétiser à la fois les téléphones mobiles classiques et les nouvelles races de téléphones, c'est-à-dire les smartphones, c'est un secteur qui est assez récent, qui est jeune, mais qui se développe très très vite. Alors le téléphone, on l'utilise pour de la voix, pour recevoir des appels, pour les passer. Et puis progressivement, on a fait évoluer l'outil pour recevoir des données, pour les échanger. Et tout ça est accéléré par... d'abord les plateformes qui existent aujourd'hui au niveau des smartphones, accélérées par ces tendances de social network ou de communautés qui se créent pour pouvoir participer en amenant des contenus. Donc dans toute cette frénésie, dont on peut donner quelques chiffres, plus de 4 milliards de téléchargements d'applications sur les smartphones en 2010, il en est prévu plus de 20 milliards en 2013, avec un marché qui est trusté évidemment aujourd'hui par Apple, mais pas seulement, qui propose plus de 250 000 applications téléchargées 6,5 milliards de fois. Quand on parle de tous ces chiffres, on prend un petit peu le tournis. Donc ce marché, c'est quoi ? C'est pour nous, au niveau d'Ambedia, à notre modeste échelle, d'apporter une contribution qui n'est pas nécessairement le fait d'utiliser un smartphone pour aller chercher de la donnée sur des serveurs distants, mais d'utiliser son outil personnel pour créer de l'interaction avec son environnement local. Et c'est comme ça qu'on s'est créé, c'est-à-dire que notre vision fondatrice, c'est l'environnement proche des individus devient communicant et interactif. Et bien sûr, l'outil mobile qu'on a en poche est le meilleur outil pour le réaliser, avec tous les progrès qu'ont permis aujourd'hui de faire les applications et les plateformes d'Apple, d'Android, etc. Alors comment nous on en est arrivé là, puisque je n'ai pas créé la société tout seul, moi je suis un des deux cofondateurs de la société. On vient d'un univers qui est l'univers des télécoms et qui commence à se croiser avec l'univers du web qui est porté par ces applications sur mobile. On essaye d'apporter donc ce trait d'union. On s'est créé parce qu'on travaillait sur des bornes multimédia il y a quelques années de ça, à installer dans des lieux publics, qui était un des premiers éléments pour créer de l'interactivité avec une audience. Et puis, très rapidement, cette vision de l'environnement communicant interactif, elle s'est imposée à nous avec le téléphone mobile et la proximité des gens dans leurs déplacements quotidiens. Comment on fait pour conquérir ces marchés en innovant ? C'est le thème central aujourd'hui, évidemment, de notre réflexion. Mais c'est aussi, au-delà de ce marché très vaste que j'ai décrit tout à l'heure dans les chiffres, d'avoir une approche métier, c'est-à-dire d'avoir une observation de ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs, qu'on choisit parce qu'on pense que ces secteurs-là sont en plein développement. En l'occurrence, chez nous, c'est le transport public et c'est l'éducation. Et effectivement, d'apporter des réponses à travers les outils smartphones pour informer les voyageurs, donc l'information mobile, leur donner un certain nombre d'informations sur les trafics, sur les perturbations, mais aussi de rendre accessibles ces solutions-là à tous. C'est ce que permet de faire le terminal mobile, c'est de gommer les handicaps, de gommer les différences sociales et en l'occurrence c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur Lyon avec le métro pour permettre à des personnes malvoyantes ou non-voyantes d'utiliser aussi cet outil-là pour récupérer l'information. Donc c'est de trouver des métiers sur lesquels appliquer nos compétences avec une promesse faite par le téléphone qui est de relier les gens à leur environnement et de leur permettre de mieux s'intégrer dans tous les projets aujourd'hui qui visent à améliorer la vie, le transport, le déplacement des citoyens.
Merci. Alors, un élément nouveau, et je crois qu'il est important, c'est l'interactivité. Vous l'avez bien souligné. Et puis, un élément de cohérence avec l'exposé de Bruno Bonnel, c'est on retrouve effectivement la notion de vivre ensemble dans des grands centres urbains et la nécessité d'être en connexion ensemble avec son environnement. Ça me paraît important de souligner qu'on est dans ces marchés de demain. L'urbanisation croissante et les problèmes qui sont liés aux urbanisations sont créateurs d'énormément de demandes. Et comment va-t-on répondre à ces demandes? Alors, troisième intervenant, et là, Guillaume, vous êtes créateur de la société Antagène et vous proposez, vous développez, vous commercialisez des tests génétiques sur chiens et sur chats. Alors là, on est sur un autre domaine.
Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Antagène, on est dans le domaine des biotechnologies. Alors, pour vous expliquer un petit peu nos marchés, j'avais une question pour le public. Est-ce que ceux qui ont un animal de compagnie, c'est-à-dire un chien ou un chat à la maison, est-ce que vous pouvez lever la main? Donc en fait, vos chiens et vos chats sont issus d'une sélection génétique qui a été opérée par l'homme depuis plusieurs milliers d'années et qui s'est intensifiée, je dirais, depuis 100 ou 200 ans. Et le problème de cette sélection génétique, c'est qu'elle a produit des effets indésirables avec l'émergence d'un certain nombre de maladies génétiques. Alors, on connaît les maladies génétiques chez l'homme, hein, qui sont heureusement rares. Chez le chien et le chat, le problème, c'est que ces maladies génétiques, elles sont devenues très fréquentes. Donc ces maladies, c'est des maladies oculaires, des maladies cardiaques, des maladies rénales, des maladies de peau, etc. Et donc en fait, nous on utilise les technologies de l'ADN et donc les connaissances du génome du chien et du chat notamment pour pouvoir décrypter ces génomes, détecter les gènes défectueux responsables de ces maladies et donc pouvoir dépister ces maladies. Donc on aide les vétérinaires pour pouvoir détecter de façon précoce ces maladies, pour pouvoir mieux soigner les chiens et les chats et pour pouvoir, disons, les accompagner s'ils ne peuvent pas être toujours soignés. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est d'aider les éleveurs à éviter de produire des chiots et des chatons qui vont développer ces maladies. Et donc, contrecarrer les effets néfastes d'une partie de la sélection génétique actuelle. Donc voilà à peu près notre activité. Comment on en est arrivé là? Je dirais que, enfin, moi j'ai un parcours universitaire. On a ces technologies-là, elles n'existaient quasiment pas il y a 10 ans. Ces tests-là qu'on propose à l'heure actuelle, hein, donc tests qu'on développe et qu'on commercialise, n'existaient pas il y a 10 ans, c'est certain, mais pour la plupart, n'existaient pas il y a 3 ou 5 ans. Donc on est vraiment complètement dans l'innovation. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que les génomes sont je dirais, encore assez mal connus, donc il y a encore beaucoup de choses à décrypter dans ces génomes pour mieux comprendre ces maladies. Au passage, d'ailleurs, je dis que les applications qu'on met en œuvre permettent de soigner les chiens et les chats, mais la connaissance de ces maladies chez les chiens et les chats permet aussi d'améliorer la connaissance de ces maladies chez l'homme et donc de pouvoir mieux soigner ou mieux connaître ces maladies également chez l'homme. Voilà, et puis sur l'évolution du marché, donc c'est un secteur qui est tout nouveau. Il commence à y avoir une vraie prise de conscience des acteurs du ministère de l'Agriculture, enfin dans tous les pays, hein, que ce soit en France ou en Europe, des filières canines et félines sur ces problèmes génétiques. Et donc il y a une vraie volonté d'encadrer la production des chiots et des chatons et puis le diagnostic vétérinaire pour pouvoir, disons, améliorer la santé des chiens et des chats. Actuellement, Antagène est une référence au niveau européen et donc notre volonté, c'est de continuer à se développer au niveau européen et puis de pouvoir proposer nos services dans, dans au moins les pays européens, sachant qu'à l'heure actuelle, on propose nos services dans une quarantaine de pays dans le monde. Alors, il y a l'Amérique du Nord, surtout l'Europe, et puis, disons, l'Australie. Mais on espère bien pouvoir proposer ces tests dans la plupart, en tout cas, des pays européens.
Alors, le moment important des JICO, je le disais tout à l'heure, c'est le débat public, c'est le principe même des JICO. Donc, voilà, le moment attendu, c'est vous maintenant qui devez prendre la parole. Hein.